Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir François Elbron qui nous parle de Deux étés 44 qui vient de paraître aux éditions Stock. Bonsoir François.
Bonsoir Sandrine.
Alors quelques mots de présentation tout d'abord. Vous êtes professeur des universités, associé à l'Institut d'études politiques de Paris, le fameux Sciences Po, et vice-président du Mémorial de la Shoah. Qu'est-ce que vous enseignez à Sciences Po ?
Alors j'enseigne quatre cours. Deux cours de stratégie d'entreprise en cours magistral pour les étudiants en master, un cours sur la transformation digitale des entreprises, aussi en master, et mon dernier cours, celui qui m'amuse le plus, c'est l'histoire des Juifs depuis 2000 ans en France. Le cours s'appelle « Les Juifs en France, une présence oubliée » que j'enseigne en cours séminaire en deuxième année pour les étudiants du Collège de Sciences Po.
Alors c'est exactement ce que je souhaitais que vous nous mettiez en avant, c'est-à-dire cet enseignement d'histoire. Est-ce que cette thématique a pu vous inspirer dans votre actualité ? Mais ne répondez pas tout de suite, on va en parler. Parce que votre actualité, qu'est-ce que c'est ? C'est la parution donc, de ce roman, Deux étés 44 aux éditions. Roman dont l'histoire tisse des liens entre la petite et la grande histoire, entre plusieurs époques du passé et le présent, entre l'histoire et sa transmission, entre le particularisme juif et la citoyenneté française, qui ni l'un ni l'autre ne s'exclut, et entre le roman et la recherche historique. Alors que raconte ce roman ? Deux étés 44 retrace la destinée d'une famille juive française à deux époques différentes, au XVIIIe siècle sous le règne de Louis XV et au XXe siècle pendant l'occupation. Alors il y a d'autres moments qui interviennent dans le récit, l'automne 1927 et puis le début du XXIe siècle. Et dans ce roman, des destins se superposent. Le premier se joue en 1744 et le second à l'été 44, d'où le titre. Il démontre l'enracinement du docteur Isaïe Serfoulman et de ses descendants dans la grande histoire de France. Il y a d'abord l'époque des Lumières, à Metz. Le docteur Isaïe Serfoulman est un médecin respecté dans sa communauté. Alors que le roi Louis XV est de passage dans la cité, il contracte une maladie que ses médecins attitrés ne savent pas soigner. Au contraire, ils accélèrent même son trépas. Par des stratagèmes que l'on ne racontera pas ici, le médecin juif arrive à son chevet et le guérit. La légende est en marche. Un médecin juif a sauvé le roi de France. Et puis il y a l'époque des ténèbres. 200 ans plus tard, jour pour jour, le 15 août 1944, Henri Klotz, héros de 14-18, agonise dans une annexe du camp de Drancy. Il pense aux siens arrêtés comme juifs à Paris cet été-là et à son fils combattant dans une unité commando. Et tous sont des descendants du docteur Isaïe Serfoulman. Entre ces générations, des liens se tissent qui illustrent l'inscription de cette famille dans l'histoire de France. Et de là, finalement, c'est toute une religion qui y est associée, démontrant le destin partagé des juifs avec l'Hexagone. Et pas seulement une religion, une culture aussi, une civilisation. Alors pourquoi j'ai aimé ce livre ? Parce qu'il s'agit d'un roman historique qui est conduit comme une enquête, parce qu'on a ici la confirmation d'un fait qui relevait jusque-là de la légende. Louis XV a été sauvé de la mort certaine par un médecin juif messin, et parce que malgré l'adversité de la Shoah pour ces juifs de France, dont l'un était un héros de 14-18 panthéonisé, l'honneur et la droiture ne cessent d'habiter cette famille juive française, modèle d'intégration. Première question qui s'impose, François, pourquoi ce livre ?
Pourquoi ce livre ? Vous êtes auteur ou autrice, je ne sais pas comment vous vous définissez, mais donc vous le savez. Un livre, on n'y pense pas forcément, il vient vous chercher à un moment donné. Et ce livre est venu me chercher à un moment donné de ma vie, où justement en construisant ce cours sur l'histoire des Juifs en France, je suis retombé sur cette histoire que j'avais entendue, petit garçon, qu'on avait un aïeul, alors je ne savais pas son nom, qui aurait sauvé le roi Louis XV de la mort. Et j'avais entendu ça de la bouche de ma grand-mère quand j'étais petit. Et en travaillant sur mon cours, je me suis intéressé aux Juifs de Moselle, et donc aux Juifs de Metz, qui étaient une des premières communautés organisées après l'expulsion des Juifs de France en 1395. Une première communauté juive organisée en ville, ils avaient le droit de cité, à partir du XVIe siècle. Et je me suis intéressé à cette communauté, et en lisant différents ouvrages de référence sur le sujet, je me suis rendu compte qu'effectivement, on pensait qu'il y avait un médecin, le docteur Ullmann, qui aurait sauvé le roi Louis XV de la mort. Et donc j'ai creusé, et je me suis rendu compte que ce docteur Ullmann était effectivement mon aïeul à 8 générations. C'était l'arrière-grand-père de l'arrière-grand-père de ma grand-mère, donc très proche. Et j'ai voulu mener l'enquête, comme vous l'avez dit, c'est un roman historique. Effectivement, c'est un roman un peu policier, parce que j'enquête comment, dans quelles circonstances mystérieuses, un tel phénomène a pu se produire, qui est quand même assez improbable.
Vous parlez de la thématique du cours que vous donnez. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un souci de transmission dans l'écriture de ce livre? Est-ce qu'il n'a pas été pensé à un moment de votre vie pour que vos enfants, peut-être vos neveux, vos nièces, soient au courant de l'histoire de votre illustre famille?
Tout à fait. Là, quand j'ai commencé à l'écrire, je pensais pas le publier, je voulais en faire une petite enquête historique familiale, justement à destination de mon père qui vit toujours, de mes sœurs, de mes neveux et nièces, de mes enfants et même de mon petit-fils, parce que j'ai un petit-fils, et mes nombreux cousins descendants de ce docteur Ullmann. Et puis, plongeant dans le récit, je me suis rendu compte que du petit essai historique, on pourrait en faire un grand récit historique. Et du grand récit historique, en fait, c'était beaucoup plus amusant, beaucoup plus intéressant d'en construire un roman.
Alors justement, on parle de roman, c'est une question qui se pose jamais quand on écrit normalement un roman, parce que c'est de la littérature, on ne cherche pas à savoir quelle est la part de fiction et de réalité, mais en fait, on est obligé de vous poser ces questions. Est-ce que les archives, vous allez nous dire hein, tout de suite, confirment bien qu'Isaïe Seyfmoulman a sauvé le roi Louis XV d'une mort imminente? Est-ce que les archives le
pas
disent?
Pas du tout. Non, les non. archives, au contraire, l'infirment. Parce qu'il était impensable qu'en 1744, le roi Louis XV, droit divin, monarque très chrétien, qui en plus avait fauté avec ses maîtresses, qui était repris en main par l'Église, ait pu être sauvé par un médecin juif. Donc on alla chercher un autre médecin, un soi-disant médecin militaire, qui a vraiment existé. À un moment donné, je pensais que c'était un personnage de fiction. Et il a vraiment existé, il s'appelait Alexandre de Montcharvau, il était lieutenant militaire à la retraite, et on lui a fait endosser la guérison du roi. Et par contre, tout laisse penser, et c'est là où c'est une enquête policière, tout laisse penser, il y a de nombreux indices pour que ce soit Ullmann qui ait vraiment guéri le roi, et peut-être on y reviendra sur ces indices.
Alors ces indices, justement, il y a notamment un tableau, en général, on ne représente pas dans ce genre de tableau un médecin, et en plus quand il est juif. Est-ce que ça peut être une pièce à conviction dans le sens...
Pour moi, c'est la principale pièce à conviction, oui. Effectivement.
Est-ce que vous pouvez nous parler de ce tableau?
C'est un tableau qui représente le docteur Isaïe Seyfmoulman, en couleur, peint à l'aquarelle, avec une perruque, avec une redingote et une chemise à jabot, donc très élégant, comme un bourgeois élégant du XVIIIe siècle. C'est un tableau assez noble, très, très stylisé, donc peint par un grand peintre de cour. Et à l'époque, il n'y avait, je me suis renseigné, j'ai cherché avec des historiens et au musée d'art et d'histoire du judaïsme, il n'y avait pas de portrait de juif, et encore moins de portrait d'un vulgaire médecin de province. Donc c'était pas très intéressant à peindre. Donc ce tableau est une forme de récompense, à mon avis, de la guérison du roi. Les autres indices, c'est que dans plusieurs branches familiales qui n'ont rien à voir, mais rien à voir, la mienne, évidemment, c'est comme ça que je l'ai su, celle de Robert Aron, un très grand historien qui le raconte dans ses mémoires, celle d'autres familles, et notamment la famille de Marcel Proust, dans 6 familles différentes, la même histoire circule. Et j'ai même rencontré une femme de 95 ans qui s'appelle Françoise Blum et qui, avant-guerre, a vu chez son oncle Eugène Lippmann la lettre de remerciement du roi Louis XV au docteur Ullmann pour sa guérison. Lettre qui a été perdue par le dit Eugène Lippmann pendant la guerre au cours des différents déménagements.
C'est incroyable ce que vous nous racontez. Donc finalement, il n'y a pas de preuves tangibles, de documents d'archives qui nous sont parvenus, qui confirment la thèse du roman.
Non, mais par contre, plusieurs grands historiens messins, notamment Thibaut de Morembert, qui était le président de l'Académie de Metz, a écrit un long article pour dire que c'était le docteur Ullmann qui avait soigné Louis XV. Et d'ailleurs, quand il a reçu Robert Aron, qui était à l'Académie française, à l'Académie de Metz, il l'a honoré en disant « Vous êtes en plus lié à Metz en étant le descendant de cet illustre docteur qui a sauvé notre bon roi Louis XV en 1744 ».
Donc il y a plusieurs époques hein, qui sont croisées dans ce roman. Comment vous est venue l'idée de cette trame ?
Alors évidemment, dès que j'ai commencé à écrire sur l'été 1744, le roi Louis XV arrive le 4 août 1744 à Metz, il va être guéri le 18 août 1744, j'ai évidemment pensé à un autre été 44. Mais d'ailleurs, mon titre initial était un autre été 44. Et puis à un moment donné, j'écris « Le docteur Isaïe Seyfmoulman guérit le roi le 18 août 1744 ». Et là, la date me frappe parce que le 18 août 1944, donc 200 ans jour pour jour après cet événement, Henri Klotz, un des descendants de Isaïe Serfoulman et mon arrière-grand-père, meurt à 5h du matin à l'hospice Picpus, qui était l'annexe médicale de Drancy. Il avait été arrêté dans Paris le 31 juillet et il meurt ce jour-là, le 18 août 1944, qui est en plus le jour de la libération de Drancy. Et je me suis dit, c'est quand même un clin d'œil de l'histoire trop fort. Il faut donc que je raconte les deux étés 44, comme vous l'avez très bien dit, un été qui est la marche vers l'émancipation, un médecin va sauver un roi juif, et l'autre été qui est au contraire la plongée dans les ténèbres, où ces familles juives françaises, patriotes, vont être arrêtées, déportées, assassinées.
On en revient à vos spécialités. Vous êtes vice-président du Mémorial de la Shoah. Est-ce que l'un inspire l'autre ou inversement? Est-ce que ce titre-là vous habite et il était quasi indispensable d'évoquer cette période dans le livre? Ou est-ce que c'est plutôt l'inverse qui...
Non, comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment écrire un roman, parce que j'ai romancé évidemment beaucoup de scènes dont je n'ai pas d'éléments historiques sur 1744. Et puis j'avais pensé à 1944, je ne voulais pas raconter. Je me suis dit, ce sera l'objet d'un autre livre. Et puis là, je me suis dit, il faut que je raconte les deux étés. Surtout que ce que je raconte sur ce que j'ai découvert, ce qui est arrivé à la famille de ma grand-mère, donc descendante de Dr. Ullmann, ma grand-mère Anne-Marie Klotz, épouse Elbron, 8 membres de sa famille directe, ses sœurs, son oncle, ses cousins, cousines, oncles et tantes, vont être déportés par le dernier grand convoi, le convoi 77 du 31 juillet 44. Et en fait, j'avais fait cette recherche quand j'avais rejoint le Mémorial de la Shoah comme administrateur, puis après comme vice-président, au début des années 2000. Donc c'est un travail que j'avais fait il y a 20 ans, que j'avais, justement, je m'étais intéressé, parce que dans ma famille, on en parlait, mais comme dans toutes les familles, on en parlait sans savoir. Ma grand-mère me disait, ils ont tous été arrêtés en juillet 44 à Paris, ils ont tous été déportés par le dernier convoi, ils ont tous été assassinés. Point final. Et moi, ayant votre prisme d'historien, je voulais savoir. Donc je suis allé aux archives du mémorial, aux archives du mémorial de Caen, où il y a les dossiers des anciens déportés, et j'ai trouvé beaucoup de choses qu'on ne savait pas dans la famille. Et ça, je l'avais partagé avec mon père et mes cousins et mes sœurs, mais j'ai aussi voulu le mettre par écrit, parce que ça raconte, comme vous l'avez dit, une partie de l'histoire de France.
Alors c'est ça qui est prodigieux, c'est que votre famille a foulé le sol de France depuis plusieurs siècles. Elle fait partie de l'histoire de France. Même quelques millénaires, parce que vous êtes remonté jusqu'à Rachi.
Oui, même de Rachi, par son épouse, on peut remonter à Calonymos, qui était conseiller à la cour de Charlemagne.
Donc c'est quelque chose d'absolument prodigieux. Alors il y a le nom d'Ullmann, il y a des descendants à Yem, Klotz, Elbron, dont vous faites partie. Est-ce qu'il y a une sorte de fierté de coller comme ça à l'histoire de France et d'appartenir à une telle famille? Parce que finalement, aujourd'hui, des familles avec cette lignée-là, en France,
Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Justement, c'est ce qui m'a fait plaisir, c'est que depuis que ce roman est sorti il y a quelques mois, j'ai eu beaucoup de témoignages, de remerciements et de reconnaissances en me disant, tu racontes l'histoire de nos familles. Et ce n'est pas des gens qui me sont apparentés, donc ils ne descendent pas d'Ullmann. J'en ai rencontré ceux qui descendaient d'Ullmann, c'était assez drôle d'ailleurs. Il y en a même une qui m'a dit, comment osez-vous parler de mon ancêtre? J'ai dit, pour deux raisons. La première, c'est que je suis romancier, donc je fais ce que je veux. Et la deuxième, c'est, chère cousine, asseyez-vous, on va en discuter, puisqu'on descend aussi du même docteur.
Alors, je vous interromps, le nom Ullmann a été forgé à un moment particulier, dans un contexte particulier. Vous pouvez nous en parler? Pourquoi Ullmann?
En fait, à partir du XVIIIe siècle, on force les Juifs, en France comme en Allemagne, à prendre des noms de famille. Et souvent, comme mon nom de famille, Elbron vient de la ville de Elbron en Allemagne. Ullmann, ça vient de la ville de Ulm, c'est-à-dire l'homme qui vient de Ulm. Et d'ailleurs, pas mal de descendants d'Ullmann, j'en ai rencontré un qui s'appelle Gérard Ullmann. Souvent, les Ullmann sont des descendants d'Ullmann. Et d'ailleurs, il y a un clin d'œil dans le livre, puisque ma famille passe par la rue d'Ulm pour s'orienter vers un bâtiment important.
Et ce qui explique aussi l'importance de Metz, qui était un carrefour vers les centres d'études autour du Rhin en Allemagne.
Complètement.
C'est pour ça que la communauté de Metz, aujourd'hui, on ne se rend pas compte à quel point elle était importante aussi comme foyer d'études.
Vous avez tout à fait raison. Jusqu'en 1860, c'est peu su, l'école rabbinique qui formait les rabbins de France, qui est maintenant rue Vauquelin à Paris, l'école rabbinique était à Metz. Et pendant très longtemps, Metz a incarné le judaïsme français, le judaïsme ashkénaze principalement, mais le judaïsme français dans ses traditions. d'études et de savoirs. Et d'ailleurs, les grands rabbins de Metz étaient tous, surtout au XVIIIe siècle, des grandes sommités européennes des études talmudiques.
Alors, la famille est très grande. Heureusement, il y a un arbre généalogique. Est-ce que c'est vous qui l'avez réalisé ou votre père, votre grand-père ?
Alors, je m'ai souvent posé la question, et c'est une bonne question, parce qu'il y a pas mal de gens qui font des recherches et qui disent souvent, des gens qui disent, ben moi, on est juif d'Afrique du Nord, donc c'est difficile, on est juif d'Europe de l'Est, ça a été détruit. En fait, pour les juifs français, c'est assez simple, parce que jusqu'à la Révolution, les synagogues avaient des registres, qui étaient plutôt bien tenus, et à Metz, ils étaient très bien tenus, donc on remonte très facilement au XVIe siècle, et à partir de la Révolution française, c'est passé aux archives départementales, et c'est conservé aujourd'hui, il y a plein de choses aux archives départementales. Mais ce qu'il y a de plus simple, parce que je suis pas allé aux archives départementales, c'est qu'il y a d'excellents sites sur Internet de généalogie, notamment Généanet, MyHeritage, Génie, et en fait, en payant un abonnement assez modique, vous pouvez avoir accès à vos ascendances en remontant très très loin, et c'est plutôt bien fait. Et surtout, c'est alimenté aussi en archives. Donc vous avez non seulement l'arbre généalogique que vous pouvez constituer, mais aussi les documents d'archives. Par exemple, moi, j'ai découvert par ce qu'on appelle le Memorbrucher, qui est en fait la nécrologie du docteur Ullmann.
Oui. Les livres de mémoire, c'était classique en montre ashkénaze.
Exactement. Ouais. Et c'est là où je vois l'état de sa bibliothèque. Je vois qu'il possède un Talmud complet et un dictionnaire de biologie en latin. Donc, c'est quelqu'un d'érudit, c'est quelqu'un d'aisé, parce que pour avoir un Talmud complet à l'époque à la maison, ça coûtait très cher. Et puis en plus, c'est un érudit, parce qu'il parlait le latin et s'intéressait à la biologie de manière assez pointue.
Alors, vous avez commencé à en parler. Qui sont peut-être est-ce qu'il y a des célébrités qui sont des descendants d'Isaïe Serfulman que vous connaissiez ou que vous avez connus suite à l'écriture du livre ?
Alors, il y en avait ceux que je connaissais dans la famille. Oui. Il y avait tout d'abord le professeur Jean Jaïm, qui était le grand-oncle de ma grand-mère. Professeur Jean Jaïm, c'est lui qui a été l'inventeur de l'hématologie en France. Donc, on lui doit l'hématologie, c'est-à-dire l'étude du sang et de toutes les maladies du sang, notamment notre étude des leucémies, ben c'est grâce au professeur Hayem qu'il y a ça. Et d'ailleurs, à Paris, alors j'ai jamais compris d'ailleurs, il y a une place du docteur Hayem. Ouais. Il était professeur, il était même président de l'Académie de médecine. Et d'ailleurs, quand il a pris sa retraite de l'Académie de médecine, le président de l'Académie de médecine de l'époque lui avait dit vous tenez votre talent de votre ancêtre, le docteur Ullmann, qui a sauvé le roi Louis XV. Donc lui, c'est une première sommité. Deuxième sommité, il y avait Louis-Lucien Klotz, qui était le cousin de Germain de mon arrière-grand-père, dont on a déjà parlé, Henri Klotz, qui va mourir à Drancy. Louis-Lucien Klotz a été député, sénateur, mais surtout il a été ministre de l'Intérieur en 1913 et ministre des Finances de Clémenceau de 1917 à 1920. Et Clémenceau, toujours très drôle, disait « Klotz, c'est le seul juif que je connaisse qui ne comprenne rien aux finances ». Pour un ministre des Finances, évidemment, il comprenait beaucoup. Et on lui doit quelque chose qui est resté dans l'histoire de France. C'est l'expression « le Bosch paiera » à propos des réparations que devaient payer les Allemands après la Première Guerre mondiale. Et puis, il y avait aussi Émile Hayem, qui était l'oncle de ma grand-mère, qui était écrivain, entrepreneur et écrivain, et qui, à 44 ans, s'est engagé en 14, il n'était pas obligé parce qu'il avait 6 enfants, il avait 44 ans, il s'est engagé dans son régiment de cavalerie et il a chargé à la tête du 19e dragon dont le colonel venait de mourir et il a été tué en Alsace. Et comme il était écrivain et qu'il est mort pour la France, il a son nom honoré au Panthéon, comme son beau-frère Maurice Sergine, de son vrai nom Moïse Schloss, qui était dramaturge et qui lui est mort dans d'autres circonstances. Il est mort à Auschwitz le 4 août 1944, mais il a lui aussi son nom inscrit au Panthéon parmi les morts pour la France.
Alors, une histoire illustre qui rejoint la grande histoire de France. Et malgré tout, les déportations, la Shoah, le convoi 77 du 31 juillet 44, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que seuls les Juifs étrangers ont été déportés ? Est-ce que votre livre n'est pas un démenti sanglant à cette théorie ?
Ben oui, il y a un petit journaliste polémiste qui a osé se présenter à la présidentielle, parce que ça, il a le droit, hein, tant qu'il a reçu ses signatures, qui a osé dire que l'État français de Pétain, Laval et Bousquet avait protégé les Juifs français. Donc c'est statistiquement faux, puisque si on veut rentrer dans les chiffres, il y a 75 000 Juifs qui ont été déportés de France, 50 000 étrangers et 25 000 Français, donc ils ne les ont pas vraiment protégés. Deuxièmement, le statut des Juifs du 3 octobre 40 visait en premier les Juifs français, puisqu'il est chassé de l'éducation nationale, de la justice, des rôles de représentation nationale et locale. Troisièmement, il enlevait la nationalité française aux Juifs d'Algérie. Donc on enlevait à des Juifs français la nationalité française, et pourtant beaucoup de juifs algériens avaient été absolument exemplaires pendant la Première Guerre mondiale. Donc il a persécuté dès le début les juifs français, et puis, preuve familiale, effectivement, moi j'appartiens à une famille de patriotes israélites français, comme disait mon grand-père, et dans cette famille de patriotes israélites français, plus de 15 d'entre eux ont été arrêtés et sont morts en déportation. Et donc ils n'ont absolument pas été protégés. Et c'est absolument un scandale de le dire. Et d'ailleurs, il vient de paraître un excellent livre collectif chez Kalman Levy, sous la direction de Laurent Joly, qui s'appelle « La France et la Shoah », que j'encourage beaucoup de vos auditrices et auditeurs à lire. « La France et la Shoah », c'est une coédition Kalman Levy, Mémorial de la Shoah. C'est absolument passionnant. Il y a les meilleurs historiens du sujet qui, eux, travaillent, qui sont des vrais historiens, contrairement à Zemmour, qui n'est qu'un journaliste. C'est bien un journaliste, mais ce n'est pas un historien. Il n'a jamais fait d'études d'histoire, il n'a jamais... passer de concours ou présenter de thèse. D'ailleurs, quand il y a eu un procès contre lui, Alain Jabotinsky, qui était un avocat, lui a demandé s'il était historien. Il n'a pas voulu répondre, puis au bout d'un moment, il devait répondre, et il a dit que non, il n'était pas historien. Donc il n'est pas historien, il parle de choses qu'il ne connaît absolument pas.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de François Helbron, qui nous parle de son roman « Deux étés 44 », paru aux éditions Stock. Qu'est-ce que vos enfants ont pensé de ce livre ?
Ça les a beaucoup intéressés. Alors, j'ai 5 enfants, d'âge très divers, parce que ça va de 33 à 18 ans, et ça les a beaucoup intéressés. Alors, d'abord, évidemment, l'histoire familiale, le clin d'œil familial, et puis, au-delà du clin d'œil familial sur cette histoire longue de notre présence en France et de l'aspect roman épique, un peu capé d'épée, du docteur Ullmann qui va sauver un roi, au-delà de ça, ils ont appris beaucoup de choses, parce qu'évidemment, je leur raconte des choses, mais ce n'est pas la même chose quand on raconte par bribes et quand on lit exactement ce qui est arrivé à leur famille paternelle pendant la Seconde Guerre mondiale en France. Et il y a, on l'a évoqué là, les déportations, mais il n'y a pas que les déportations, parce que dans ma famille, il y avait 7 résistants, 3 dans les forces françaises libres, 4 dans la résistance intérieure, une femme parmi elles était résistante, c'était la sœur de ma grand-mère, et 3 sont morts au champ d'honneur. Pour la France. Donc ils ont appris cette histoire de manière plus détaillée de héros et de martyrs juifs en France qui étaient des membres de leur famille. Ça les a beaucoup touchés.
Vous avez évoqué votre père. Est-ce que pour lui, c'est quelque chose, une sorte de fierté de savoir que son fils s'intéresse à l'héritage familial ?
Alors oui, parce que lui était toujours un militant actif dans la communauté juive comme moi, puisqu'il était trésorier du CRIF pendant de nombreuses années. Il a créé le prix de l'amitié judéo-chrétienne et puis il a été avant moi le vice-président du Mémorial de la Shoah. Donc effectivement, moi aussi j'étais militant. En fait, j'ai commencé à être militant avant lui, parce que j'ai commencé à militer à 14 ans, mais je ne militais pas encore à l'époque. Mais donc, on partage ce militantisme et cette action pour la mémoire et pour l'histoire. Et effectivement, il était très fier, mais aussi un peu troublé par mon livre. Parce que je lui avais raconté les choses que j'avais trouvées. Mais c'est une chose entre raconter et lire, et notamment de lire l'arrestation, la déportation de ses tantes, qu'il aimait beaucoup, de son grand-père, qu'il aimait beaucoup aussi. Il ne connaissait pas tous ces détails.
Donc vous avez
appris des choses.
Donc votre génération, en fait, est le lien entre le passé et le présent.
Un peu.
Alors, on fait le tour de la famille. On ne peut pas ne pas évoquer votre épouse, la talentueuse romancière Ariane Bois. Qu'est-ce qu'elle a pensé, alors non pas du contenu, mais de la forme?
Alors, elle m'a beaucoup aidé.
Oui.
Au début, elle a son 10e roman, et son dernier roman, Ce pays qu'on appelle Livre, est le premier roman qui a été consacré au camp des Milles, qui est passionnant. Alors, elle, au début, elle était un peu amusée. Je lui ai dit, je vais écrire un essai historique. Puis à un moment donné, je lui ai dit, non, c'est trop romanesque, il faut que j'écrive un roman. Mais évidemment, je n'avais jamais écrit un roman. Des essais, j'avais écrit, mais de moins longs. Et donc, elle m'a donné des conseils, et quand j'avais des points de blocage, notamment, j'ai appris le narrateur omniscient. Narrateur qui voit tout, qui raconte tout. C'est un peu mystérieux, mais voilà. Donc, elle m'a donné quelques trucs. Elle m'a encouragé, surtout. Elle m'a soutenu, et c'était important, parce que c'est une vraie, vraie épreuve d'écrire un roman.
Alors, c'est la question que j'allais vous poser. Un tel roman, en plus, qui s'inspire de faits réels liés à votre famille, est-ce qu'on est chamboulé à la sortie d'un tel livre ?
Oui, parce que par moments, les personnages viennent vous habiter, mais ça, c'est classique. Tous les romanciers racontent ça. À un moment donné, les personnages font partie de votre vie. Le matin... Au petit matin, moi j'ai écrit très tôt le matin, vers 6h du matin. Le petit matin, vers 5h, le docteur Ullmann, il venait me voir. Il me dit, voilà ce que je vais faire aujourd'hui avec le roi. Va l'écrire. Et c'était quasiment réel. C'était pas un personnage imaginaire. C'était vraiment un dans un semi-sommeil un personnage réel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on habite avec ces personnages. Et puis, quand on doit écrire les périodes tragiques de 1944, on replonge dans cette documentation et on le replonge de manière très attentive. C'est une chose de la lire. Je l'avais lu. Et puis, je l'avais oublié. Et là, j'ai dû me plonger, j'ai dû analyser, j'ai dû croiser, j'ai dû construire des déductions, j'ai dû échanger avec des historiens du mémorial qui m'ont aidé, comme Tal Brutman, comme Alexandre Doulut, comme Karen Taïeb, qui est la directrice des archives. Et en creusant, en fait, on comprend beaucoup de choses, et beaucoup de choses douloureuses sur la forme de la tragédie. Donc effectivement, c'est à la fois une expérience très exaltante, surtout quand on invente. L'imagination, c'est formidable. Et puis c'est beaucoup plus difficile quand on parle de tragédie familiale et on rentre dans l'introspection de pourquoi on écrit ça.
Le livre a paru il y a quelques mois maintenant. Quels sont les retours? Qu'est-ce qu'on vous en dit en général?
Alors, je suis très heureux parce que mon premier roman, en plus qu'on dit premier roman tardif, je ne suis pas tout jeune pour écrire un premier roman, c'est souvent reçu avec un peu de circonspection. Et en fait, j'ai eu beaucoup de compliments et beaucoup d'éloges de gens importants pour moi. Alors, tout d'abord, ma famille proche. Et ensuite, de romanciers, d'écrivains que j'estime beaucoup, qui ont dit que ça fonctionnait. Et encore plus fort, j'ai eu des compliments d'historiens, d'amis historiens, comme Annette Vivorca, comme Laurent Joly, comme Tal Brutman, comme Pierre Birnbaum. Tous, quand je leur avais dit, on est tous amis, quand je leur avais dit que j'écrivais, ils me disaient « Ah, enfin, François, tu écris quelque chose !» Et quand je leur ai dit que j'écrivais un roman, ils m'ont tous regardé, à peu près comme si je leur avais dit que j'écrivais un manga. Un peu comment, c'est pas très sérieux un roman. Et tous m'ont dit, et toutes et toutes, y compris Annette Bevorka, que mon roman tenait la route, et que sur le plan historique, ça tenait la route, c'était tout à fait vrai, et que c'était même intéressant comme approche, parce que ça permettait d'aller plus loin, justement, que du simple essai historique, parce que ça permettait de donner un peu de chair, de donner un peu d'émotion, de donner un peu de sentiment, qu'il n'y a parfois pas assez dans les essais historiques, parce qu'on est tenu par les faits. Par exemple, je sais que Ullmann va passer 3 jours et 3 nuits avec le roi. Et qu'au bout de 3 jours et 3 nuits avec le roi, il va le guérir. Je ne sais pas ce qui se passe pendant ces 3 jours et 3 nuits avec le roi. Et donc c'est là où l'imagination est formidable, parce que vous inventez ce que vous voulez.
Est-ce qu'un autre roman est en route?
Tout à fait.
Vous
Alors
pouvez
il,
dire,
en route,
oui
il en route. J'ai la documentation, je suis en train de compiler la documentation. Et comme j'ai pas mal d'activités professionnelles, je n'écris que l'été. Donc, je suis en train de constituer ma valise de livres et de documents pour attaquer ça dès cet été.
Il y a une question classique, mais néanmoins difficile pour conclure cette émission. Si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de lire « Deux étés 44 », qu'est-ce que vous leur diriez?
Je leur disais « Plongez-vous dans l'histoire longue, héroïque et admirable des Français juifs ». Depuis le début du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, à travers l'histoire d'une famille, la mienne, mais c'est pas ça le plus important, c'est l'histoire d'une famille qui est assez emblématique de ce que les Juifs, sur le temps long, ont apporté à la France, qui sont notre fierté et notre grandeur.
Merci infiniment, François Helbon, d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'avoir parlé de votre actualité. Je rappelle son titre, « Deux étés 44 », qui vient de paraître aux éditions Stock. Bonsoir.
Bonsoir Sandrine.